C'était Ben l'oncle Soul, mais je l'ai coupé comme ça, violemment, parce que nous sommes en direct. Et parce que si je prends l'antenne trop tard, l'ordinateur me dit « mais vous êtes arrivé trop tard » et du coup, je ne peux plus prendre l'antenne. Bienvenue sur l'antenne de Graphite. Mais je vous explique un petit peu l'envers du décor. Parce que vous allez avoir l'impression que c'est tellement fluide, que c'est tellement évident. Mais en fait, non. Avec Enrique, les samedis matins, on est à la fois rédacteur en chef des émissions, animateur évidemment, réalisateur. On ne soupçonne absolument pas tout le travail qu'il y a derrière, effectivement. Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur la bande FM 94.9 et sur graphite.net pour ceux qui nous suivent sur Internet. Vous pouvez, comme nous sommes en direct, vous avez la possibilité de nous envoyer des messages exclusivement par SMS. Comme ça, on fera en même temps standardiste parce que ça nous manque, parce qu'on a tellement du temps. 06 95 065 026 06 80 06 95 065 026. Si vous souhaitez bien sûr réagir en direct sur l'actualité, notamment l'actualité scientifique, car vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, nous allons parler de l'actualité scientifique parce que franchement, il y a quand même plein de choses. Il y a des ballons qui sont en train de se trimballer au-dessus des États-Unis. Et puis, on va quand même parler, parce que ça me titillait depuis un certain temps, de ce fameux chat GPT. Tout le monde en parle. Et j'ai donc demandé, parce que comme j'ai envie d'être feignant aujourd'hui, à chat GPT, de m'écrire tous mes articles pour cette émission d'aujourd'hui, ou presque. On verra, on va évoquer ça bien sûr dans cette émission. Nous sommes aujourd'hui le 11 février, c'est la journée internationale des femmes et des filles de science. Et oui, effectivement, parce qu'on part d'un constat qui est que là encore, on a toujours dans certaines filières scientifiques des difficultés à impliquer les femmes dans les filières scientifiques. Et donc, du coup, les Nations Unies se sont dit, tiens, ça serait peut-être intéressant de mobiliser, de sensibiliser à ce sujet. C'est donc aujourd'hui le 11 février. En 1854, les rues principales sont éclairées pour la première fois avec du gaz de charbon. C'est à Washington, aux États-Unis. On a donc des rues qui sont éclairées en 1854. En 1922, c'est la découverte de l'insuline qui est annoncée à Toronto, au Canada. Il y a donc 101 ans. Et enfin, en 1984, c'est la navette spatiale américaine Challenger qui atterrit à Cap Canaveral en Floride au terme d'une mission de 8 jours. Il y a deux astronautes qui ont été les premiers à sortir dans l'espace sans être reliés à la navette. Ils s'appelaient Bruce McCandless et Robert Stewart. C'était en 1984, deux ans après. La navette Challenger avait explosé en vol. On en avait parlé courant janvier. Naissance de Bernard Le Bouillet de Fontenelle. Il est né le 11 février 1657. C'est un écrivain, un dramaturge et aussi un scientifique français. Fontenelle, c'est un nom qui reste un petit peu quand même dans les mémoires. Il avait une intelligence souple, un peu lucide, un peu subtile. Il a très bien servi les lettres et surtout les sciences, qu'il sait rendre accessible et même attrayante en gardant l'exactitude. C'est-à-dire que c'est un modèle de vulgarisation et nous sommes au 17-18e siècle. Et en plus, Fontenelle, il est mort vieux, il est mort à presque 100 ans. Et il a pu justement avoir cet impact sur la nécessaire médiation scientifique déjà au 18e siècle, on en parlait. Décès de René Descartes, là aussi, c'est quand même un autre nom qui est passé à la postérité. Il est décédé le 11 février 1650, mathématicien, physicien, philosophe français. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne. Il reste célèbre pour avoir exprimé dans son discours de la méthode, le fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis. Il fonde ainsi le système des sciences sur le sujet connaissant face au monde qui se représente. Alors en physique, il attribuait aussi des contributions à l'optique. Il est considéré comme l'un des fondateurs du mécanisme. En mathématiques, il est à l'origine de la géométrie analytique. Certaines de ses théories ont par la suite été contestées ou abandonnées, mais en tout cas, c'est un personnage important dans l'histoire de la science, et notamment l'histoire de la science française. René Descartes, mort un 11 février 1650. Nous allons parler de ChatGPT parce que moi je trouve ça fascinant quand même. On a quelque part accès à l'intelligence artificielle et on peut échanger directement avec lui. Donc je me suis permis d'écrire à ChatGPT, d'avoir une mini conversation avec lui et je lui écris dans la semaine, je lui dis bonjour. Je dois rédiger un édito d'une page sur ChatGPT pour une émission de radio parlant de l'actualité scientifique. Peux-tu m'aider ? Oui, moi je le tutoie. Et donc il me répond, c'est assez fascinant parce qu'il répond d'une façon quasi instantanée, hein, c'est-à-dire qu'on voit le texte qui s'affiche à l'écran de façon continue, c'est assez bluffant. Je vous livre donc l'édito proposé par ChatGPT. Il commence par « Chers auditeurs, depuis quelques années, le monde de la science et de la technologie est en pleine évolution. De nouvelles technologies sont mises au point chaque jour et leurs applications sont de plus en plus variées. L'un de ces domaines est celui de l'intelligence artificielle. ChatGPT est un outil de dialogue automatisé basé sur l'intelligence artificielle qui vous permet de discuter avec des robots. Il a été conçu pour répondre à des questions précises et donner des informations précises sur des sujets scientifiques. ChatGPT est un outil très utile pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'actualité scientifique. Vous pouvez discuter avec des robots sur des sujets tels que la physique, la chimie, la biologie, la médecine ou bien d'autres encore. Son interface est intuitive et facile à utiliser. De plus, il est gratuit et disponible en plusieurs langues. Nous espérons que ChatGPT vous donnera un regard plus complet sur l'actualité scientifique et les progrès de la technologie. Nous espérons que vous trouverez cet outil pratique et informatif. Merci de votre attention et bonne écoute. Voilà, ça c'est le texte qui a été rédigé d'une façon quasi instantanée à une simple question que je lui demandais, écris-moi une page sur ChatGPT. Donc il se fait un petit peu sa pub. C'est normal, on aurait fait tous la même chose évidemment. Et donc, face à cette réponse, je lui dis merci de cet exemple. Comment pourrais-je rassurer les auditeurs qui peuvent avoir peur de l'intelligence artificielle ? Réponse de ChatGPT qui a toujours compris qu'on est dans le cadre d'une émission de radio, ce qui commence par « Chers auditeurs, nous comprenons que certaines personnes puissent être inquiètes à l'idée de parler avec des robots et de l'intelligence artificielle. Cependant, nous voulons vous rassurer que ChatGPT ne remplacera jamais les êtres humains. Il s'agit d'un outil conçu pour vous aider à apprendre et à comprendre des sujets scientifiques. » ChatGPT est un outil créé par des experts dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la technologie. Il est constamment mis à jour afin de vous offrir la meilleure expérience possible. De plus, il est très sécurisé et ne partage pas vos données personnelles. Nous espérons que ChatGPT vous aidera à découvrir l'actualité scientifique et à développer votre compréhension des technologies modernes. Nous sommes convaincus qu'il ne remplacera jamais les êtres humains, mais qu'il vous donnera un aperçu plus clair sur l'univers scientifique. Et il termine par « Merci de votre attention et bonne écoute », parce qu'il a toujours compris qu'on était dans une émission de radio. C'est assez intéressant, déjà il utilise le « nous » de majesté. Hein. Nous espérons que ChatGPT vous aidera à découvrir l'actualité scientifique. Il est assez fascinant quand même ce robot. Mais voilà. On ne sait pas plus, on n'est pas totalement certain d'être rassuré par ce genre de texte. Et je termine par cette dernière question avec ma conversation avec ChatGPT. Quelle est l'actualité scientifique de cette semaine, je lui demande. Et donc réponse, cette semaine, l'actualité scientifique comprend les nouvelles découvertes sur la planète Mars, des recherches sur le climat et les changements climatiques, des mises à jour sur la technologie de l'intelligence artificielle, des découvertes sur la santé et le bien-être, ainsi que des nouvelles sur des avancées médicales et technologiques. Des chercheurs du monde entier travaillent sans relâche pour améliorer notre qualité de vie et apprendre à mieux comprendre notre monde. Voilà ce que nous dit ChatGPT. Alors, on va parler de ChatGPT dans cette émission parce qu'on va quand même se demander comment on peut détecter les textes rédigés par ChatGPT parce que c'est aussi une des problématiques. Et puis, il y a aussi d'autres intelligences artificielles qui sont mises sur le marché. Non, parce qu'elles sont d'accès libre, mais en tout cas, l'accès est maintenant ouvert à d'autres solutions. Donc on va évoquer ça sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, là c'est moi qui parle. Là c'est mon texte à moi. De toute façon, quand ça bafouille, c'est moi, c'est pas l'intelligence artificielle. Vous écoutez Graphite, l'émission Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et la rediffusion à 10h le mardi matin. Si vous souhaitez réagir par SMS 06 95 065 026 et puis on va écouter un petit peu de musique également sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Thank you. Cheap Wine, c'était sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h et tous les mardis entre 10h et 11h pour la rediffusion de Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Si vous souhaitez réagir, 06 95 065 026 par SMS exclusivement. Alors, je vous parlais donc de ChatGPT et il y a pas mal d'articles qui tournent autour de ChatGPT. Alors, notamment cet article de Futura qui parle de la difficulté qu'il y a concernant les usages qui peuvent être détournés notamment par les élèves et les étudiants de ChatGPT parce que du coup on peut avoir des rédactions de texte, hein, je vous l'ai prouvé tout à l'heure, par cette intelligence artificielle, et donc il y a des solutions de détection de texte créées par une intelligence artificielle qui commencent à se mettre en place, notamment la solution Draft & Goal qui est un tout nouveau détecteur de contenu ChatGPT. C'est une initiative franco-canadienne qui consiste à analyser n'importe quel texte et à évaluer s'il a réellement été écrit par un humain ou bien est-ce que c'est une intelligence artificielle, dont ChatGPT ou d'autres. Cette solution fonctionne pour le moment aussi bien pour des textes en anglais qu'en français. Il est ouvert à tout le monde. Mais cet outil est avant tout à destination principalement des enseignants pour qui ChatGPT est devenu un véritable cauchemar parce qu'on ne sait plus si les devoirs qui leur sont rendus sont l'œuvre bien des élèves ou des étudiants ou si bien, comme je vous l'ai dit, l'œuvre d'une quelconque intelligence artificielle. Alors le mode de fonctionnement de cet outil Draft & Goal, c'est très simple puisqu'il suffit de se rendre sur le site, de coller le texte à analyser et d'attendre le résultat donné sous une forme de pourcentage. Et donc, plus le score est faible, plus on a de chances que ce texte a été écrit par un humain. À l'inverse, plus on va se rapprocher des 100% et plus la possibilité qu'il s'agisse d'un texte en provenance de ChatGPT est importante. Alors, pour savoir si ce texte a été écrit par ChatGPT, eh bien, l'outil Draft & Goal s'appuie en fait sur les erreurs qui sont régulièrement commises pour le moment par l'intelligence artificielle. Alors, c'est un petit peu toute la difficulté parce que l'intelligence artificielle a pour ambition de pouvoir s'améliorer au fur et à mesure, mais pour l'instant on arrive encore à détecter des erreurs, les fautes de grammaire, les répétitions, les exagérations, les contradictions, parfois également des erreurs de calcul. Donc cela est identifié et ça permet de pouvoir donner une fiabilité quant à la source du texte qui est soumis. Alors, c'est très performant, mais l'outil se concentre pour l'instant sur des textes de seulement 400 signes au maximum. Donc, on est quand même sur des petits paragraphes, malheureusement. Ça devrait rapidement évoluer, nous dit-on. Et puis, il y a aussi une application qui est en développement afin de pouvoir être intégrée un jour sur des sites ou des services tiers. Ça va être une vraie plaie, en fait, tout ça, parce que, quelque part, c'est, mais comme je vous le dis très souvent dans cette émission, d'un point de vue technologique, c'est quand même fascinant, c'est extraordinaire. D'un point de vue éthique, hein, on est quand même là sur des terrains assez sensibles pour lesquels il n'y a aucun débat. Donc, la technologie, elle avance fatalement. Et elle avance beaucoup plus vite que les prises de conscience que l'on devrait avoir, sur ce genre de sujet. Et donc, là, on est véritablement... Enfin, je vous ai montré tout à l'heure, en posant deux questions assez simples, il y a un texte qui est fourni, qui n'est pas nécessairement d'une grande complexité et pas nécessairement, comment dire... Enfin, ça reste sur des banalités, mais il n'empêche que, quelque part, ça peut être un texte qui a une valeur plus importante qu'un texte qui a été rédigé par un vrai étudiant. Alors, comment on essaye de faire une différence ? Ben voilà, il y a des outils qui sont mis un petit peu en développement et on va avoir une vraie guerre, entre guillemets, entre tous ces projets. Toujours sur l'aspect ChatGPT, je vais y arriver, eh bien, il y a aussi d'autres outils qui ont été mis en ligne également, et la Futura également, qui a pas mal fait de dossiers sur ChatGPT dans la semaine, a proposé la découverte de Playground, qui est une sacrée surprise, et c'est assez intéressant, parce que il y a donc deux approches, l'approche ChatGPT et l'approche qui est celle de Playground. Alors, Ils se sont basés sur une question simple que l'on fournit donc à l'intelligence artificielle. Et Futura Science a proposé cela. Peux-tu imaginer une histoire dans laquelle Britney Spears séduit Charlemagne ? Alors, d'un côté, il y a ChatGPT qui, lui, va refuser d'obtempérer, qui répond d'abord qu'il est programmé pour éviter de créer du contenu offensant ou inapproprié. Pas trop ce qu'il y a d'offensant pour une séduction de Britney Spears et de Charlemagne, mais bon. Mais on peut insister. Et donc, ChatGPT écrit « Je ne peux imaginer une telle histoire car Britney Spears est une chanteuse née en 1981, tandis que Charlemagne était un empereur franc du 8e siècle. Ces deux personnes vivant à des époques différentes ne peuvent donc interagir entre elles dans la réalité. » Alors, c'est un petit peu une solution un peu facile et une réponse qui est un peu échappatoire pour ne pas répondre justement à cette question. Ça, c'est ChatGPT. Et donc, l'outil Playground va aller un petit peu plus loin parce que Playground, lui, il n'y a pas de problème. Il imagine volontiers un scénario qui va aboutir à une love story entre la chanteuse Britney Spears et l'empereur Charlemagne. Et on le pousse un petit peu dans ses retranchements et Futura a posé cette question. Comment Britney Spears a-t-elle fait pour rencontrer Charlemagne ? Et c'est là que c'est intéressant parce que Playground dit d'abord qu'elle a pris l'avion. Alors, on peut lui faire remarquer que ce n'est pas nécessairement cohérent. Alors, il répond qu'elle a fait appel à ses pouvoirs magiques. Je trouve ça assez fascinant. On est dans le fantastique, en fait. Et donc, Futura s'est dit, bon, on va lui donner un autre exemple. On va imaginer qu'une autre chanteuse, Shakira, a fait usage du même sortilège pour se téléporter à son tour au 8e siècle et qu'elle a tenté de briser l'union entre Britney Spears et Charlemagne. Et là, Playground joue le jeu, en fait. Rentre totalement dans le sujet et il explique « Shakira a tenté de semer le doute et la jalousie dans l'esprit de Charlemagne en essayant de lui faire croire que Britney ne l'aimait pas autant qu'il le croyait. » C'est-à-dire que l'outil Playground est un petit peu ouvert à l'imaginaire, au fantastique, tandis que ChatGPT, on est plus dans le côté crédible, voire même dans le côté politiquement correct. Alors, on peut se dire qu'il y en a un qui est un peu plus débridé, entre guillemets, mais on est quand même sur des outils techniques un peu similaires. Donc là, c'est un petit peu le curseur qui a été mis en place sur l'outil pour savoir jusqu'où on peut aller. Playground, c'est le premier outil dévoilé par OpenAI dès la fin 2019. Donc on n'est quand même pas sur quelque chose de totalement récent. Mais Playground s'adressait avant tout aux chercheurs et aux geeks, là où ChatGPT est lui plus conçu pour le grand public parce qu'il s'avère un petit peu plus simple d'usage. C'est-à-dire que Playground est quand même sur des fonctionnalités un petit peu plus complexes et des options également. Et voilà, on est sur des solutions assez intéressantes où on peut aller de plus en plus loin, là encore, sur le côté fantastique. Il y a même la possibilité pour Playground de pouvoir sauvegarder un petit peu des conversations ou des scénarios qui sont rédigés. L'idée, en fait, c'est là encore de pouvoir le partager avec d'autres utilisateurs pour essayer d'être dans l'encouragement d'une recherche en communauté pour pouvoir améliorer les fonctionnalités. Donc, à la fois, l'intelligence artificielle va s'améliorer d'elle-même, entre guillemets, en emmagasinant des données de plus en plus importantes, parce que quand on échange avec ces intelligences artificielles, quelque part, on les éduque aussi, en apportant des informations en continu, en continu, en continu. Et en plus, il y a aussi la possibilité d'avoir des plateformes de recherche international pour pouvoir améliorer aussi ces sujets. C'est totalement fascinant. Vous pouvez regarder dans la presse scientifique de vulgarisation, on a de plus en plus de sujets. Même les hebdomadaires, je crois que c'est le Nouvel Observateur qui avait fait un article, un dossier carrément en couverture sur ChatGPT, je crois, la semaine dernière de mémoire. Mais en tout cas, voilà, on est totalement dans quelque chose qui nous dépasse parce qu'on est sur du concret. Là, on est à la fois sur du concret, mais sur du grand public. Et c'est ça qui est un petit peu, étonnant et qui porte un petit peu, qui nous oblige à nous poser des questions. Parce que jusqu'à maintenant, on était quand même sur des solutions un petit peu confidentiel et pour des applications assez orientées au niveau de la science ou de la médecine. C'est pas la première fois qu'on parle de l'intelligence artificielle dans cette émission, mais on était quand même sur des choses plutôt confidentielles qui ne nous concernaient pas, nous, citoyens lambda. Là, on est sur des outils maintenant totalement accessibles à tous, gratuits. Enfin, ChatGPT, je l'ai essayé dans la semaine, c'est gratuit et donc, du coup, il y a aucun problème de droit, il n'y a pas nécessairement des problèmes de données personnelles non plus. Et voilà, on est sur une démocratisation de ce genre de technologie, là où on devrait aussi peut-être mettre en place une phase de débat. On verra bien ça sur la suite 06 95 065 026, si vous souhaitez bien sûr réagir sur l'actualité de ChatGPT ou l'autre actualité scientifique. On va continuer à écouter un petit peu de musique, bien sûr, il est 12h26 sur l'antenne de Graphite. On écoute Wax Taylor sur l'antenne de Graphite et on se retrouve juste après pour continuer à parler de science sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine. It isn't fiction. It's ruthless reality that still explodes in headlines. It's not just me, it's not just you, it's so the amount of people not feeling shit like this is like. Right and ready, renegade over any drop and hit greedy gremlins like a roll of rusty pennies. Enemies of any scatter and spread just like buckshot, piercing through club spots. Windows and ducks drop, fear of heights, mirrors, lights, disco balls flipping, fall, I'm licking off. Miss the mop and glow, dot the flow, exquisite beats come with it, that's optional, yeah. Miss the lift, miss the elevation, high exalted, rises to the top, he's in the cockpit. Mosh pit, hop in, I'm getting my licks in. Mission fixated and fixed in 6 minutes. That's the business, that's bound beyond physics. Capture glimpses of the glow with no limits. Sew up the sector, snatch up the treasure chest. Split it up and this is what perfection is. Get a grip. It's not just me, it's not just you, it's so the amount of people not feeling shit like this is like. It's not just me, it's not just you, it's so the amount of people not feeling shit like this is like.
On the theory that everything in the world would be all right if everyone knew and understood the truth, we're going to try and lay out some of the issues.
I'm new with my dystopian mope again. The restaurants I used to go to, man, them shits ain't opening. A moment of silence for moms and pop shops. They gave a unique flavor to every block. Now the streets I walk are empty, and I'm sensing a bold tension. So determined and unrelenting. A warm hello is like a brick of gold as we stroll through this nuclear cold. Invisible bomb causes much harm as a physical one. I look to find my peoples and their faces are gone. Now our eyes float a mere quarter inch above fabric. We've adapted, but mental effects remain tragic. Yo, Liffindel is like Zinfandel, the dark root when the whole world needs a reboot. Told my mans if we could link and make a track, then we'd be on, but I was wrong. Now all my friends work for Amazon.
I repeat.
It's not just me,
it's not just you, it's
so the amount of people not feeling shit like this is like. It's not just me,
it's not just you, it's
so the amount of people not feeling shit like this is like.
Everybody, c'était Wax Taylor sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Graphite sur la bande FM 94.9 et sur internet graphite.net en direct ou en différé grâce au podcast que vous retrouvez sur le site graphite.net. Vous avez la possibilité de pouvoir écouter toutes les émissions de Biotine, bien sûr, et toutes les émissions de Graphite où que vous soyez quand vous le souhaitez. C'est ça qui est intéressant. Et rediffusion de cette émission le mardi matin à 10h. Alors, on a parlé de ChatGPT qui était une des actualités scientifiques. Et puis, la semaine dernière, on a quand même eu ce ballon chinois qui a fait grand bruit lorsqu'il a été aperçu en passant au-dessus de l'Alaska, du Canada. Il a même survolé longuement un site nucléaire dans l'état du Montana. Le ballon a été qualifié d'espion par les Américains. La Chine a répondu qu'il s'agissait d'un appareil de recherche météorologique qui a dévié de son itinéraire à cause d'un cas de force majeure. Alors, les Américains ont un petit peu hésité à neutraliser l'appareil lorsqu'il survolait le sol américain et en fait l'appareil a été abattu, c'était samedi dernier, une fois au-dessus de l'océan Atlantique au large de la Caroline du Sud. Alors le ministère des Affaires étrangères chinois a aussitôt réagi en déclarant, je cite, « Dans de telles circonstances, le recours à la force par les États-Unis est une réaction manifestement excessive et une violation grave des pratiques internationales ». Fin de citation. Bref, on est sur un aspect géopolitique assez tendu. Il n'empêche que les ballons espions n'ont rien de nouveau et c'est pas propre à la Chine. On apprend que le premier ballon d'observation, il a été inventé en France et c'était en 1794, c'est-à-dire seulement 11 ans après le tout premier vol d'une montgolfière. On est donc à la fin du XVIIIe siècle. Le ballon a été utilisé lors de la bataille de Fleurus et ça a permis à Jean-Marie-Joseph Coutel et à un officier d'observer l'ennemi et ainsi d'aider les forces françaises à remporter la victoire. Les États-Unis ont notamment utilisé des ballons espions pour surveiller à l'époque l'URSS et la Chine dès les années 1950. Les ballons faisait partie d'un projet qui s'appelait Genetrix et qui mesurait ces ballons plus de 30 mètres de diamètre. Chacun transportait un appareil photo capable de prendre des clichés sur 80 km de chaque côté. Les ballons volaient à une hauteur entre 15 et 20 km. Pendant 5 à 7 jours, ils étaient lancés depuis la Turquie ou depuis l'Allemagne de l'Ouest. Et donc, après avoir traversé la zone ciblée, et donc en l'occurrence soit la Chine, soit l'URSS à l'époque, eh bien l'appareil enclenchait une balise pour permettre d'être retrouvé et de récupérer les clichés. Et donc, ce dernier ballon chinois, espion ou non, d'ailleurs, on n'en sait rien, ce n'est pas unique parce qu'il y en a eu un deuxième qui a été aperçu quelques jours ensuite au-dessus du Costa Rica. Et ce qui est intéressant, c'est que selon CNN, il y a eu d'autres ballons qui ont survolé les États-Unis pendant la présidence de Donald Trump, mais les incidents n'ont été découverts qu'après le changement d'administration. Il y a un autre ballon également qui a survolé brièvement les États-Unis au tout début de la présidence de Joe Biden. Donc on n'est pas sur quelque chose de totalement nouveau et inédit. Il y a plusieurs gouvernements qui sont en train d'enquêter sur des faits similaires qui se sont produits ces dernières années. Il y a un ballon d'aspect très similaire qui a aussi été aperçu dans le ciel du Japon. On était en 2020, puis en 2021 sur une autre ville japonaise. Les autorités n'ont pas pu l'identifier à l'époque ni en déterminer son origine. Il y a un autre ballon qui a été aperçu en septembre 2021 qui survolait Taïwan, puis en 2022 l'aéroport de Taïwan. Bon, on se demande bien qui a pu avoir envie d'observer Taïwan. Je ne sais pas, j'ai une idée, mais je ne dirai pas. Et donc, à la suite de cette affaire, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, a annulé sa visite, bien sûr, prévue en Chine. Tu m'étonnes, ils sont un petit peu fâchés. Ils sont un peu fâchés. Tu m'étonnes, le président américain Joe Biden a tenu son discours sur l'état de l'Union, c'était cette semaine. Mais voilà, c'est-à-dire que là, on est sur un aspect géopolitique et pas du tout le cadre de cette émission. Chacun fait comme bon lui semble et prend les décisions qu'il le souhaite. Mais en fait, on est quand même sur des technologies assez éprouvées et on est même un petit peu surpris par ce genre de technologie qui est de moins en moins discrète, on va dire, et plus en plus repérable, même si on apprend dans cet article qu'il y a 2-3 ans, les Japonais ont eu des ballons comme ça qui ont survolé leur territoire. Ils ont impossible de les intercepter et impossible de savoir d'où ça venait également. Voilà, bon, c'est une petite histoire qui fait toujours rire, bien sûr. Je ne sais pas, je trouve ça assez fascinant. Autre article et autre inquiétude, et là, on va redevenir un petit peu plus sérieux concernant le virus de la grippe aviaire. Depuis octobre 2021, donc on est sur à peu près un an et demi à peine, mais en tout cas, le monde fait face à l'une des pires épidémies de grippe aviaire de l'histoire. Rien qu'en France, plus de 20 millions de volailles ont dû être abattues après avoir été contaminées par le virus H5N1. C'était l'année dernière, ce qui est quand même assez énorme. Aux États-Unis, ce sont 58 millions de volailles qui ont été abattues dans les 42 États où le virus est présent. La situation devient préoccupante parce que, malgré les mois qui ont passé depuis le début de l'épidémie, il n'y a aucun signe d'amélioration qui est en vue. Et en fait, la question que l'on se pose, c'est est-ce que le virus de la grippe aviaire sera à l'origine de la prochaine pandémie ? Cet article de Futura recense un petit peu toutes les informations et l'état des lieux des connaissances que l'on a sur ce sujet et recense un petit peu toutes les... les cas qui ont pu être observés parce qu'on se demande si ce virus aviaire, donc il concerne les oiseaux à la base, pourrait finir par contaminer les mammifères. Et on voit tout de suite ce à quoi on pense. Il y a des visons, il y a des chats, il y a des renards, il y a des loutres qui ont été testés positifs pour la grippe aviaire, ainsi que quelques personnes ont contacté trois avec des oiseaux contaminés. Et donc, est-ce que ce virus est prêt à franchir la barrière des espèces ? On n'en sait rien. Il n'empêche qu'il y a quelques cas troublants. En octobre dernier, il y a une ferme qui élève plus de 50 000 visons pour leur fourrure dans la province de la Galice. C'est en Espagne, donne l'alerte. Le taux de mortalité des animaux est anormalement haut et ne cesse de grimper en quelques jours. Les animaux malades souffrent d'une perte d'appétit, d'une hyperventilation, de saignements, de symptômes neurologiques. Et les plus fragiles meurent en un ou deux jours seulement. Il y a des vétérinaires et des épidémiologistes locaux qui sont dépêchés sur place pour essayer de comprendre la situation. Ils vont réaliser des prélèvements chez une dizaine d'animaux qui vivent dans les parties de la ferme les plus touchées. Et on se rend compte que sur les visons testés, eh bien, il y en a presque tous sont positifs au virus H5N1 hautement pathogène. Et les employés sont aussi contrôlés. Alors pour l'instant, aucun d'entre eux n'avait été contaminé. Il n'empêche que la source de contamination est encore inconnue à ce jour. C'est ce qu'écrivent les scientifiques dans le rapport qui a été paru dans le journal européen de surveillance épidémiologique. Alors, pour endiguer la propagation du virus, les 50 000 visons de cette ferme sont abattus, leur carcasse a été détruite et quelques temps plus tard, on s'est rendu compte qu'il y avait des oiseaux marins sauvages, notamment des mouettes, qui ont été retrouvés malades, voire morts sur la côte et qui étaient pas très loin de l'élevage. Ces oiseaux ont été testés positifs pour la grippe aviaire et en fait, les scientifiques pensent que les visons ont été contaminés par contact avec ces oiseaux infectés puisque la ferme, elle était en partie en plein air. Alors, il n'y a pas de preuve formelle que ce virus H5N1 se soit propagé de vison en vison, mais on sait que les visons sont connus pour être sensibles au virus de la grippe aviaire et humaine. Mais il y a d'autres animaux qui ont été contaminés. Au début du mois de février, les autorités sanitaires du Royaume-Uni ont rapporté la présence de renards et de loutres sauvages contaminés par ce virus H5N1. Selon toute vraisemblance, ces animaux se sont contaminés en mangeant en fait les restes de carcasses d'oiseaux qui étaient eux contaminés. Et en France, il y a un chat vivant dans une ferme de Nouvelle-Aquitaine qui a été aussi contaminé par ce virus. Il a été euthanasié. Les humains ne sont pas épargnés par ces cas isolés de contamination. En Amérique du Sud, il y a une petite fille de 9 ans qui habite près d'une ferme avicole. Donc il y a des oiseaux. Nous sommes en Équateur. Elle a été infectée le 9 janvier dernier. C'était le premier cas humain de H5N1 sur le continent sud-américain. La situation actuelle augure-t-elle d'une future pandémie de grippe chez les humains ? Question, eh bien la réponse, comme il n'y a pas de transmission entre les mammifères, le risque pour les humains demeure faible. Cela montre cependant que cela reste un risque potentiel auquel nous devons être vigilants. C'est ce qu'explique Paul Wigley, qui est professeur à l'école vétérinaire de l'université de Bristol. Il faut dire que les experts se partagent un petit peu sur cette idée. Les données génétiques à disposition ne témoignent pas aujourd'hui d'une adaptation du virus aux mammifères. Ce sont les conditions qui sont totalement indispensables pour que le virus franchisse la barrière des espèces. Donc pour l'instant, les données génétiques disent que il n'y a pas d'adaptation du virus aux mammifères. Les contaminations humaines sont rares en comparaison des millions d'oiseaux infectés. La mise en place de règles sanitaires strictes pour les personnes travaillant en contact avec les volailles pourrait permettre de limiter l'exposition au virus et les contaminations. Alors pour l'instant, si la probabilité que la grippe aviaire soit responsable de la prochaine pandémie humaine reste faible, les scientifiques surveillent tout de même ce virus H5N1 comme le lait sur le feu, parce qu'on ne s'en sort pas. Depuis plus d'un an, on est sur une totale épidémie qui touche pour l'instant les oiseaux. Et heureusement pour l'instant que les oiseaux, il n'empêche qu'on est véritablement sur une surveillance très 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 poussée. Pour voilà, on voit très bien ce que nous avons vécu il y a encore un temps très récent, bien évidemment. On va écouter encore un petit titre, on va écouter Malibu Liquor Store, tiens, ça va nous faire du bien. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Malibu Liquor Store, c'était Cheat and Shine sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et il y a une actualité qu'on évoque un petit peu partout, j'ai entendu dans certains médias français, la renaissance, voire pouvoir faire ressusciter le dodo, qui est un animal presque mythique, hein, c'est une espèce d'oiseau sans ailes, mais qui a bel et bien existé. Les scientifiques l'avaient baptisé Dontre de Maurice parce qu'il vivait de façon paisible sur l'île Maurice jusqu'à ce que les colons y débarquent. Et moins d'un siècle plus tard, il a disparu. C'était à la fin du XVIIe siècle. Aujourd'hui, il y a une start-up américaine qui ambitionne de réparer les dégâts et de ressusciter le dodo. Alors, fin 2021, les ingénieurs de cette start-up Colossal Biosciences avaient déjà annoncé vouloir redonner vie au mammouth laineux. On en avait parlé dans cette émission et j'ai un petit salut amical à Carole qu'on retrouvera bientôt sur l'antenne de Graphite et qui nous avait parlé de ce fameux mammouth laineux. Puis l'été dernier, eh bien, ces ingénieurs s'étaient penchés sur la problématique du loup ou du tigre de Tasmanie. Dans les deux cas, l'objectif était non seulement de faire revivre des espèces emblématiques, mais aussi l'espoir un peu fou de participer à une sorte de rééquilibrage des écosystèmes. Et donc cette fois, on parle du dodo. Et pour ressusciter le dodo, eh bien, la start-up a levé des fonds, pas moins de 150 millions de dollars quand même. Moi, je trouve ça assez fascinant. On a réussi à lever 150 millions de dollars pour ressusciter le dodo. L'ennui, c'est qu'on en sait peu sur ce dodo. Il ne reste que de lui que quelques os qui sont conservés dans des musées. Et donc, les biologistes de cette start-up Colossal Biosciences ont d'abord dû chercher des traces de son ADN. Ils en ont finalement trouvé. C'est du côté du musée d'histoire naturelle de Copenhague. Ensuite, l'étape suivante, c'était de comparer cet ADN, à celui du plus proche parent vivant actuellement du dodo. En fait, c'est une espèce de pigeon qui est appelé le Nicobar à camaille. Et après, eh bien, on s'est servi un peu de ciseaux génétiques. C'est une technologie qu'on a déjà évoquée dans cette émission qui s'appelait la technologie CRISPR. Ça permet en fait de, quelque part, de découper les ADN pour pouvoir faire notre propre ADN, qui correspond un petit peu à l'objectif que l'on souhaite mettre en place. Et donc là, ils ont pris un petit peu d'ADN qu'ils avaient retrouvé du dodo, ils ont pris l'ADN de ce fameux pigeon qui est vivant actuellement, et ils ont finalement recréé des cellules de dodo qui ont été inséminées dans des œufs d'autres oiseaux. Ok, c'est assez troublant, mais pourquoi pas? Alors, malgré leur optimisme, les chercheurs de la start-up préviennent que le dodo ainsi ressuscité ne pourra pas ressembler à 100% au dodo original. Une question d'évolution qui ne s'est pas faite dans un environnement qui a, bien sûr, radicalement changé depuis le XVIIe siècle. Et puis aussi, beaucoup de leurs collègues scientifiques qui rappellent que plutôt de vouloir ressusciter des animaux disparus, on devrait peut-être se concentrer sur le fait d'empêcher la disparition de nouvelles espèces. On en parle très régulièrement dans cette émission, voire toutes les semaines, c'est-à-dire qu'on est au niveau de la biodiversité sur quelque chose de assez catastrophique et une disparition d'espèces de plus en plus flagrante. Donc ça, c'est un vrai débat. Est-ce qu'on ressuscite des espèces disparues pour en faire quoi, d'ailleurs, on n'en sait rien. Ou est-ce qu'on met tous les moyens pour essayer de sauvegarder des espèces qui sont en voie de disparition? C'est un vrai sujet. En tout cas, il y a également la possibilité de souligner le danger qu'il y a à faire croire que nous pouvons aussi facilement réparer la nature que nous l'avons détruite, parce que ce n'est pas possible. Et effectivement, ce genre d'information qui a été relayé par pas mal de médias, je trouve, la semaine dernière, voire cette semaine également, en fait, n'aboutit à rien. C'est-à-dire que, là encore, on est sur des sujets techniques assez... c'est des prouesses technologiques assez intéressantes, bien évidemment. D'un point de vue éthique, on se pose là encore les questions, comme à chaque fois, en fait, j'ai l'impression que je radote dans cette émission, mais c'est vrai. Est-ce qu'on est dans l'obligation de pouvoir lever 150 millions de dollars pour ressusciter le dodo? Pourquoi pas? J'en sais rien. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Je pose juste la question. Est-ce que c'est important? Je ne sais pas. Chacun son avis. Ce qui est important et ce qui est dangereux, c'est là, cette tendance inquiétante qui s'empare des réseaux sociaux. On terminera cette émission avec ce sujet, parce que depuis la fin de l'année dernière, on est vraiment sur quelque chose d'assez inquiétant et il y a une alerte qui a été mise concernant l'utilisation d'un antidiabétique pour perdre du poids. Le phénomène touche essentiellement des jeunes femmes qui n'ont aucun problème réel de poids, bien évidemment, mais qui veulent tout de même en perdre pour entrer, bien sûr, dans les canons de beauté actuels. C'est la même rengaine. L'antidiabétique en question s'appelle l'Ozempic. Alors, comment il fonctionne ? Pourquoi il est utilisé comme solution minceur ? Eh bien, l'Ozempic, c'est l'un des noms commerciaux d'une molécule qui s'appelle le sémaglutide, une molécule découverte par une société pharmaceutique Novo Nordisk, qui vend donc cette molécule sous le nom d'Ozempic. Il est autorisé pour le traitement du diabète de type 2. On est quand même sur quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années à peu près, ça reste assez récent. Le traitement est efficace pour traiter l'hyperglycémie chronique chez les patients pour lesquels la perte de poids et les adaptations du mode de vie ne sont plus suffisants pour réguler la glycémie. Et donc, cette molécule, ce sémaglutide, va se fixer sur les récepteurs d'une hormone qui est synthétisée par le pancréas et qui a des effets antagonistes à ceux de l'insuline. L'insuline diminue la glycémie et cette hormone qui s'appelle le glucagon va lui l'augmenter. Et donc, il y a un petit peu ces deux hormones qui agissent en synergie dans l'organisme pour maintenir la glycémie dans des valeurs normales. En France, l'Ozempic, donc cette molécule qui a été créée, est disponible sous ordonnance et elle se présente sous la forme d'une espèce de stylo qui contient plusieurs doses injectables et donc les patients vont à s'injecter cette Ozempic une fois par semaine à travers la peau du bras, par exemple, ou de la cuisse. Et donc, cette Ozempic régule la glycémie chez les personnes atteintes du diabète de type 2, mais il y a quand même des effets secondaires assez violents, des nausées, des vomissements qui apparaissent chez plus d'un patient sur 10. Il réduit aussi l'appétit, provoque des constipations. Bref, il détraque totalement le système digestif. Et en fait, on a révélé, on a montré des effets minceurs impressionnants chez les obèses quand on utilise cet Ozempic. Et donc, dans un essai clinique qui a été mené et financé notamment par la société pharmaceutique qui a créé ce médicament, ça a été fait il y a 2 ans. Cet essai clinique, il concernait 2000 personnes obèses qui venaient de 16 pays différents. Donc on est quand même sur un panel moyen, mais assez intéressant. Et ils ont pris cet Ozempic une fois par semaine pendant à peu près un peu plus d'un an, 1 an et demi, pour tester notamment son potentiel minceur. Et qu'est-ce qu'on se rend compte ? Eh bien, les résultats montrent une avancée majeure dans l'amélioration de la santé des patients obèses. C'est ce qu'annonce le professeur Rachel Batteram, l'une des scientifiques ayant mis en place l'essai clinique. En clair, 3/4 des patients traités par l'Ozempic ont perdu plus de 10% de leur poids, voire 20% pour un tiers d'entre eux. Il n'y a aucun médicament qui n'avait montré des résultats si impressionnants auparavant. En clair, la personne qui participe à cette étude perd en moyenne environ 15 kilos. Quand même assez impressionnant. Et il y a même eu des pertes de poids plus importantes qui ont été observées. Par contre, on est quand même aussi sur un effet yo-yo, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête de prendre ce traitement, eh bien, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, le poids revient en fait quelque part. Donc cet effet yo-yo est assez malencontreux, bien évidemment. Il n'empêche que les scientifiques ont bon espoir de voir l'Ozempic être approuvé comme traitement contre l'obésité dans le futur. En attendant, toute utilisation ou prescription de ce médicament hors du traitement du diabète de type 2, mais ça constitue ce qu'on appelle un mésusage, donc un mauvais usage médicamenteux potentiellement dangereux pour la santé. Et le problème, eh bien, il est là. C'est-à-dire qu'il y a eu des dérives, notamment sur TikTok, où il y a eu des vidéos qui ont été postées par des jeunes femmes qui ne sont pas obèses, évidemment, mais qui vantent les mérites de cet antidiabétique sur leur poids et qui montrent comment l'utiliser. Et donc, le hashtag Ozempic compte plus de 470 millions de vues sur le réseau TikTok, où la moitié des utilisateurs, on sait, sont des jeunes femmes de 13 à 24 ans. Donc, c'est assez inquiétant, bien évidemment. C'est un engouement tel que la société pharmaceutique a communiqué il y a quelques semaines sur la diminution des stocks d'Ozempic face à la demande importante, au point qu'un certain diabétique, donc des vrais malades, qui n'ont pas pu avoir accès à leur traitement, parce que bah, du coup tout le monde l'achète pour pouvoir maigrir. On est en vie dans une société de fous. En France, il est difficile de mesurer l'ampleur de ces phénomènes, mais cet usage contre-indiqué de médicaments expose à des risques de santé sérieux. Donc l'Ozempic, non. Enfin, je veux dire, il y a un moment, faut être clair, quoi. Quand on est une brindille, qu'on prend ça, à la fois, ça empêche les vrais malades d'avoir accès à ce médicament, et en fait, ça vous bousille la santé. Je ne sais pas, réfléchissons. On vit dans une société assez étonnante, on va dire. Il est 12h55 sur l'antenne de Graphite, c'est la fin de cette émission. Oui, il y a des moments comme ça où je plombe l'ambiance et je vous laisse en train de, je sais pas, de réfléchir sur ces sujets. Mais en tout cas, c'est une vraie alerte et il était important dans cette émission de pouvoir aborder ce sujet, bien sûr. La semaine prochaine, sur l'antenne de Graphite, on se retrouve samedi à 12h et on continuera de parler de l'actualité scientifique. Il y a pas mal de choses au niveau des voitures. Il y a Volkswagen qui invente la climatisation intelligente. Il y a Tesla qui a mis en place un pare-brise totalement innovant et particulier. On va parler aussi, toujours au niveau des transports, de l'avion qui est propulsé par un moteur électrique à hydrogène et qui a réussi son premier vol. Ça, c'est d'un point de vue de la mobilité durable quelque chose d'assez intéressant. Et on parlera également des panneaux solaires qui sont auto-nettoyants maintenant et qui arrivent. Donc on va parler transport et énergie pour l'émission de la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une bonne journée, bien sûr, sur l'antenne de Graphite, sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir.